OK. Excusez-moi. Alors, j'étais en train d'expliquer que pour Rashi, la paracha n'est pas de Trouma et les parshiot qui suivent ne sont pas à leur place, parce que pour Rashi, le Mishkan est une conséquence de la faute du veau d'or. Et donc, tout ça devrait se situer après le récit du veau d'or. Le Ramban pense autrement. Le Ramban pense que la Géoula, elle n'a pas eu lieu au moment de la sortie d'Égypte. Elle n'a même pas eu lieu au moment de Har Sinaï. Elle a lieu à partir du moment où les Bnei Israël ont construit le Mishkan. Pour Ramban, le Mishkan, c'est un Sinaï portatif, en quelque sorte. C'est un Sinaï qui se répète tous les jours. Il se répète justement dans le fait que c'est dans le Mishkan qu'Hachem va parler avec Moshe Rabbeinu. Et le Sinaï, c'est le moment où Hachem a parlé avec les Bnei Israël. Et donc cette opération-là du lien avec Hachem, qui se répète donc grâce au Mishkan, bien c'est la prolongation du Sinaï, et donc ça n'a rien à voir avec le veau d'or pour le Ramban. Donc pour ça, pour Ramban, pour Ramban, le Mishkan va être le centre du ralliement, le centre qui est recherché, qui est ce centre vers lequel les Bnei Israël sont toujours tournés. Donc, quelque part, ils sont tournés vers ce lieu de la communication avec Hachem. Bien. Donc, ceci étant dit, la paracha, elle ne commence pas tout de suite par nous parler du Mishkan. Comme son nom l'indique, enfin, comme ce qui sert de nom à la paracha, là, le premier mot significatif, en fait, ici, c'est Terouma. Terouma, c'est un prélèvement. Et donc Hachem a dit à Moshe, avec pour mission de Moshe de le répéter au Bnei Israël, donc de parler au Bnei Israël et de leur dire, Vikruli Terouma. Ils prendront pour moi, dit Hachem, un prélèvement, mais kol ish. Ce prélèvement, on va le faire chez tout homme, Hachem idvenu libo, tout homme que son cœur portera, motivera à donner ce prélèvement. Mais on dit en même temps de chaque homme que son cœur le portera à donner, vous prendrez ce prélèvement. Il y a donc deux mouvements qui ne sont pas absolument a priori cohérents. D'un côté, on fait appel à la générosité de la motivation du don. Et puis en même temps, on dit on va le prendre. Et quand on prend quelque chose, a priori, c'est normalement ça de faire, on de... ça peut pas se faire sans le consentement. Mais là, en fait, on va obliger les gens à consentir quelque part. Et puis on nous dit par la suite, alors voilà le prélèvement que vous prendrez. Et puis, il y a la liste de tous les éléments tout ordre qu'il faudra prélever, qui sont les éléments avec lesquels on va construire le Mishkan. Et puis vient au verset tête la fameuse phrase Vasuli Migdash Veshachanti Betocham. Veasu li, ils feront pour moi un migdash, c'est-à-dire, disons, un sanctuaire. Et puis en plus, on ajoute, Veshachanti Vetoham, je résiderai parmi eux, en eux. Alors, normalement, on aurait dû dire, je résiderai dans ce sanctuaire. Betocho, et pas Betocham. Et dans le Betocham, on pourrait se demander, Chachanti Betocham, c'est-à-dire, on pourrait dire, eh bien, je vais résider au milieu d'eux. C'est-à-dire que les tribus, elles vont camper autour du Mishkan. Donc je vais résider dans le Mishkan, mais l'important c'est que je serai au milieu des Bnei Israël. Mais ça c'est trivial, c'est évident que s'il y a un Mishkan, on va pas mettre le Mishkan près d'une des tribus plutôt et loin de toutes les autres. Donc c'est clair qu'on va le mettre ce Mishkan au milieu. Donc le Betocham ici n'a pas besoin d'être dit, c'est évident. Sauf que, donc du coup, comme c'est pas nécessaire, donc c'est pas à ça que sert le mot Betocham. Et Betocham, on va apprendre de Betocham qu'Hachem dit, je résiderai dans le cœur de chacun d'entre eux. Alors bien sûr que si Hachem va résider dans le cœur de chacun, on peut se demander pourquoi il faut construire un Mishkan. À quoi sert de construire un Mishkan, une tente avec tout ce qu'on va voir, si en fait Hachem ne va pas résider dans cette tente, il va résider dans le cœur de chacun. Donc il faudra qu'on explique un peu cette situation où Hachem veut résider dans le cœur de chacun et néanmoins on construit un endroit où il va résider. Alors la première question qu'on va poser ici, je vais de nouveau suivre l'enseignement de Rav David Feinstein sur le sujet. Le problème, c'est le pasouk dit Veikru li, ils prendront pour moi ce prélèvement. Donc, dans le sens du mot li, il y a que le Ribbono shel Olam demande, si on peut parler comme ça, un prélèvement pour lui. C'était pour lui, entièrement pour lui. C'est pas marqué simplement Vikru Truma. Ils prendront un prélèvement. Si on avait dit simplement comme ça, on aurait entendu que c'est quelque chose qui vient de leur volonté. Mais quand on dit Vikru Li, alors la signification c'est que le Ribbono shel Olam veut qu'on lui donne à lui la Trouma. L'important, ce n'est pas tellement que c'est prélevé d'eux, mais l'important, c'est que ça arrive chez lui. Dans le Midrash, ils disent que la volonté de Ribbono shel Olam, qu'il construise ce Beit HaMikdash portatif, en fait, qu'est le tabernacle, le Mishkan. Chazal disent que on pourrait comparer ça à un roi qui allait marier sa fille. Et comme disent Chazal, ça lui était difficile de se séparer de cette fille. Alors, il a demandé au prince qui, ou au roi, qui allait épouser sa fille, fais-moi une petite cabane, quelque sorte, que je puisse habiter proche de vous. Donc sur ce modèle-là, Akadosh Baruch Hu a dit, les Bnei Israël, ils sont dans un pays lointain. Et moi, je veux résider parmi eux. Donc, il leur a ordonné de lui faire une résidence pour qu'ils puissent résider parmi eux. Ça veut dire que c'est sa volonté à lui, la volonté du Ribbono shel Olam, du Maître du Monde. Et dans ce modèle, dans cette parabole, la fille du roi, ben c'est le représ elle est représentée par la Torah. Donc ça veut dire que le Ribbono shel Olam voulait que le dévoilement de la présence divine qui avait eu lieu au Sinaï, reste chez eux, d'accord? Reste quelque chose de permanent pour eux. Et donc le but du Mishkan, c'est que ce qu'il appelle Gilui Shchina, le dévoilement de la présence d'Hachem dans le monde, ce soit à leurs yeux comme si c'était, ils se retrouvaient chaque fois à nouveau au Sinaï. Ce n'est pas une répétition seulement, c'est-à-dire où on prolongerait en quelque sorte les photos du Sinaï, quoi. Mais c'est l'événement qui est revécu à chaque fois. Lorsque je vois les miracles qui ont lieu dans ce Mishkan, alors, je peux espérer, je peux penser à quelque chose qui s'est renouvelé complètement. Et même si, au fond, ce miracle, je l'ai vu hier, on nous demande systématiquement, B'chol yom yihu b'neicha k'chadashim, que tout ce qui se passe doit être à tes yeux, c'est le cas aussi des mitzvot, comme si c'était quelque chose de radicalement nouveau. Et c'est ça le pshat, dit-il, Vikruli Teruma. Le but de ce Beit HaMikdash portatif, le Mishkan, qui est à enfin, qui est l'ancêtre du Beit HaMikdash, c'est que Ribbono shel Olam veut résider parmi nous et il veut pouvoir se manifester dans toute sa gloire avec nous. Mais tout ça, c'était évidemment avant la faute du Vaudor. Avant le Hegel, tout était complètement plat, en fait. Tout était possible. Et donc, Veikrouli Trouma, ça a été dit avant le mot d'ordre. Ça veut dire que le Mishkan était quelque chose qu'on peut appeler Sorer Gevoah. C'était quelque chose qui était fait pour Hachem. Hachem voulait cela. Hachem veut que les Bnei Israël vivent, revivent quotidiennement le Sinaï, l'événement Sinaï. Pour prolonger l'expérience Sinaï, en fait, il faut la renforcer chaque jour. Bien sûr, ce qui se passe chaque jour, ce n'est pas exactement avec la même puissance que ce qui s'est déroulé au Sinaï. C'est-à-dire, ça n'a pas besoin d'être aussi fort comme c'était le cas à la première occurrence. Dans le Beth Amikdash, donc déjà dans le tabernacle, dans le Mishkan, on voit le dévoilement de la présence divine sous la forme de ce qu'il y avait au Beth Amikdash. Il y avait Asara Nissim, il y avait 10 miracles quotidiennement. Donc ça, c'était une des façons de nous aider à nous retrouver dans cette situation totalement miraculeuse qui était celle dans laquelle Hachem nous a parlé au Sinaï. On voit aussi que quand Hachem répond à notre prière, quand on vient prier à cet endroit-là, et qu'Hachem répond à notre prière, alors on voit que voilà, il se rejoue d'une autre manière en quelque sorte, mais ce qui se rejoue, c'est la même chose que ce qui s'est passé au Sinaï. C'est en plus petit, en moins puissant, mais c'est du même ordre. Alors pour Ramban, ça a été dit à ce moment-là, ça a été dit avant la faute du Vaudor, après le Sinaï et avant la faute du Vaudor. C'est pas très, il y a, le laps de temps est pas très grand. En vérité, parce que le veau d'or, il a eu lieu, comme on dit, au moment du Sinaï, d'une certaine manière. C'est-à-dire, le Sinaï, il s'est un peu étendu parce que Hachem avait parlé au Bnei Israël, mais ensuite, Moshe Rabbeinu a dû monter sur le Sinaï pour recevoir les louchot, pour recevoir la Torah, disons, plus matérielle, en quelque sorte. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont fait le veau d'or. Et c'est à ce moment-là, on dit, c'est comme une kala qui aurait été adultère sous la choupa, quelque part. Et donc, s'il faut dire le Mishkan juste après, quelque part, c'est immédiatement après le Sinaï, après le 6 Sivan ou le 7 Sivan, il y a eu d'après Ramban, à ce moment, ça a été dit Vikrouli Trouma. C'est-à-dire, on va perpétuer le Sinaï. Et au milieu de cela, arrive le veau d'or. Alors, comme on l'avait fait remarquer, Dans la première phrase, on parle bien de quelqu'un que son cœur pousse à donner. Il a une motivation très profonde, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a? Chez moi, elle est là. Elle est là, elle est re-là.
Oui,
Elle
je
est
suis
re-là.
survenue.
Jamais,
Pardon.
chez moi, elle n'a jamais
Merci.
disparu. Je n'ai pas vu l'image disparaître. Donc, la paracha, comme on disait, c'est marqué, en fait, vous prendrez Tikrou. Donc on parle de prendre. Aber el ben Israël, veyikru li truma. Ils me prendront. Ils prendront pour moi. Veyikru li. Prendront. Prendre. Ça sonne comme quelque chose. Comme, bon, il faut donner, mais on est obligé de donner. Donc, bon, c'est une façon de prendre. Quand on oblige les gens à donner, c'est comme si on l'avait pris. Mais c'est un peu difficile parce que c'est pas du tout l'ambiance du verset, puisque le verset dit, on va le prendre de quelqu'un que son cœur pousse à donner. Alors pourquoi est-ce qu'il faut prendre à son corps défendant puisqu'il veut le donner? Hachem voulait bien que les gens donnent volontairement, que chacun de sa propre volonté ait envie de donner. Mais être colis, chacharit personne que son cœur portera, poussera à donner. Alors pourquoi est-ce qu'on termine de nouveau? On dit de nouveau Tikru et Troumati. C'est-à-dire qu'on va l'obliger à donner. Alors comment on s'en sort avec cette contradiction apparente? Alors voilà, parfois, il a l'envie de donner. Il veut donner un lingot d'or. Il a envie de donner un lingot d'or au Mishkan. Aujourd'hui, on pourrait dire quelqu'un qui a eu l'idée de donner une certaine somme à la Tzedaka. Ça l'est passé par la tête. Et après, il change d'avis. Maintenant, il n'est plus aussi généreux. Il a fait des comptes, ou je sais pas, ou il est de moins bonne humeur. Et donc, il ne se dépêche pas de donner ce qu'il avait promis, par exemple. Alors, le Bedin va l'obliger à s'acquitter de ce à quoi il s'est engagé. Est-ce que pour cette raison, maintenant, on va considérer que son don est un don donné sous la contrainte? C'est-à-dire on fait plus du tout référence à son premier mouvement, qui était un mouvement de générosité? On sait bien qu'il y a cette fameuse histoire du guet ou Kofi no toad chez Omar Otseani. On oblige quelqu'un, y compris en lui donnant des coups, jusqu'à ce qu'il dise je veux. Et là, on va dire, dans l'histoire du guet, on dit que c'est considéré comme une vraie volonté, quelqu'un qui voulait vraiment donner. Mais tant qu'on l'avait pas obligé, il voulait pas donner. Il n'aurait pas donné. Et donc c'est pour ça qu'on dit à la fin, qu'on dit, mais et kol ish asher idveno libo, de tout homme que son cœur a porté à vouloir donner. Ça veut dire de toute personne qui, au départ, voulait donner, son cœur voulait donner. Alors vous prendrez. Ça veut dire qu'il faut l'obliger à revenir à sa première générosité, même si maintenant il en est un peu revenu. Alors, nous, on va l'obliger à donner dans la mesure où on est sûr qu'à ce moment-là, il voulait donner. On ne va pas obliger quelqu'un à donner si cette personne n'a jamais dit qu'elle voulait donner. Mais comment est-ce qu'on saura c'est que il veut vraiment donner au fond de lui-même? Et puisqu'il a pas on n'a pas besoin qu'il dise vraiment, explicitement. Même s'il crie, il dit, on m'oblige à donner, on m'oblige à donner. Tant que il sait et il reconnaît finalement que c'est vrai, c'est la suite de ce qu'il avait dit. Alors on peut dire, il y a une espèce de continuité de sa volonté. On dit, maintenant, même s'il ne le dit pas, c'est comme s'il disait, oui, je veux. Et je veux vraiment. Pardon?
Ça ne responsabilise pas.
Non, il s'est engagé. Et maintenant, il a une faiblesse. Il n'arrive pas à donner ce à quoi il s'était engagé. Et nous, on pense, la Torah, elle pense, que son premier engagement était sérieux, conscient, volontaire, etc. Eh bien, on considère que c'est comme si cet engagement, il continue d'être toujours vrai, mais entre-temps, il a des cheshbonot, j'ai d'abord, je donnerai demain, je donnerai après-demain, maintenant je peux pas, ou etc. Ouais, mais c'était pas obligatoirement de l'argent, il allait donner, je sais pas, de la laine, ou teinte, ou des choses comme ça, des objets.
Il s'engage à épouser une femme. Et après, il dit non, je ne me conviens pas, je ne veux pas. On pense qu'à l'intérieur de lui, il veut toujours l'épouser.
Non, parce que ça, peut-être que là, il s'est peut-être trompé aujourd'hui. Et puis, c'est pas un cadeau pour la femme si on l'oblige à l'épouser. Le problème là-bas, c'est une relation entre lui et Hachem. C'est pas un cadeau pour la femme d'obliger quelqu'un à l'épouser. Mais Hachem, il sait ce qu'il pense.
Continuité dans la volonté de donner et est-ce qu'on peut vous expliquer sur tout ce que les ministres ont fait dans le sens où il y a une persistance là. On a l'impression que le chef de l'État, il n'est même pas pris en compte dans le problème avec la chef.
Pour l'instant, et on n'a pas pris ça en compte puisque ça n'a pas eu lieu encore. Je vais d'après le Ramban. Après le Ramban, le Vodou n'a pas encore eu lieu. Alors, on va avancer un petit peu. Et dans le verset tête, le pasouk dit, ce verset qu'on a commencé, c'était le chet, pardon. Le verset tête, il dit, après avoir dit, va sous les migdash, il dit, le pasouk dit, que chol, asherani, mare otra, et tavnit amishkan, et tavnit kol kelav, vechenta asu. De se demander pourquoi c'est marqué Vechenta Asu. C'est, on est dans les ordres. Bon, on dit voilà, vous ferez les choses telles que je vous les ai montrées. Donc, il y a eu, Hachem a montré à Moshe, en tout cas, le Mishkan. Et les instruments, les ustensiles, etc. Et puis après, c'est le pasouk ajoute Vechen ta'asu. On n'a pas besoin. Pourquoi dire Vechen ta'asu? Surtout qu'en plus, c'est pas Ken ta'asu. Si on dit Ken ta'asu, ça serait un ordre. Mais Vechen ta'asu, c'est quoi ce vav? Vechen ta'asu. Et vous ferez ainsi. Si déjà, il fallait dire seulement Kentasu. Comme je vous l'ai montré, ainsi vous ferez. Mais pourquoi? Et ainsi vous ferez. Hazal disent qu'on apprend de là que la kavana de dans ce Vrentasu, c'est Vrentasu le Dorot. C'est-à-dire, dans le futur, vous ferez ainsi aussi. C'est-à-dire que si jamais un des ustensiles se brise, alors, on n'aura pas le droit de le faire avec une forme différente. On devra le faire à l'identique. A priori, c'est comme ça que la halakha interprète le Vechenta'asu, le Dorot. Mais on pourrait l'expliquer un peu différemment. Que le Ribbon Shalom, Shalom, il leur annonçait, Rentasu, ainsi vous ferez, pas, c'est pas un ordre, mais il leur annonce que dans le futur vous ferez ça comme ça. C'est-à-dire, dans le futur, le clan d'Israël vont attendre, enfin, ils vont attendre, espérer cet ordre-là de Vechenta'asu. C'est un niveau. C'est un niveau dans lequel on pourrait se trouver maintenant. C'est-à-dire, nous voyons que le Mishkan, jusqu'à présent, était, comme on a dit, le Tsorer Gavoa. Le Mishkan était pour Hachem. C'est Hachem qui voulait le Mishkan. Vasuli Migdash. Et on a aucune raison de penser que le Mishkan était pour le clan d'Israël. Puisque, comme on a vu d'après le Midrash, Akadosh Baruch Hu veut rester à proximité de son peuple. Donc on peut dire Vechen ta'asu, c'est-à-dire en toute situation, c'est comme ça que vous ferez. Mais après la faute du veau d'or, la situation a complètement changé. Parce que maintenant, un instant, parce que désormais, nous comprenons que ce souvenir, ce rappel, si on veut, Shiviti Hashem le Negdi Tamid, que je dois me rappeler sans cesse la présence d'Hashem, dans le laps de temps assez court, de 40 jours, après le dévoilement gigantesque de Matan Torah, on a déjà tout oublié puisqu'on est capable de faire le veau d'or. Et du coup, le Mishkan, il est pour nous. Donc la kavana qu'il y a dans le, enfin la compréhension qu'on doit avoir de cette expression Vechen Ta'asu, c'est que le Ribbono shel Olam sait qu'on va avoir besoin du Mishkan pour nous. Maintenant, on le construit Begeder shelo lishma, c'est-à-dire on ne le construit pas pour lui-même, en quelque sorte. C'est-à-dire, on le construit pour nous, pour réparer la faute du veau d'or, et plus pour Sorer Gavoa. C'est ça que ça veut dire, que veut dire le Vechen Ta'asu, que le Ribbono shel Olam, il nous a dit, Ani yodea she'atidim Israël, Livnot et ta Mishkan bezrizut gadol. Biglal sheye nogea lahem. Je sais que les Bnei Israël vont construire le Mishkan à toute vitesse parce qu'ils comprendront que ils en ont absolument besoin. Parce que la zrizut, le zèle et la rapidité, en fait, elle est là lorsque l'homme comprend que c'est son intérêt. Cet intérêt soit spirituel ou matériel. Et désormais, le Mishkan, il est pour nous. Il est pour nous parce que il est le lieu où nous allons pouvoir apporter des korbanot pour obtenir la kapara, pour obtenir la réparation, l'annulation de la faute, l'effacement de la faute. Et donc, d'une certaine manière, le construire avant le Mishka, avant le Chet HaEgel, on aurait construit quelque chose pour Hachem, mais maintenant, en fait, puisqu'en plein milieu, il y a ce veau d'or, et du coup, on a absolument besoin de la Kapara. Donc on a absolument besoin du Mishkan pour nous-mêmes. Et donc encore une fois, cet ordre, Vechen Ta'asu, c'est quand les Bnei Israël ont eu besoin quand ils vont avoir besoin, comme on avait vu, si un ustensile s'abîme, il faudra le refaire à l'identique. Et le verset vient nous annoncer qu'il arrivera un moment où on va devoir renouveler le Mishkan. Quand les Bnei Israël vont passer du Mishkan au Beth Amikdash, quand ils vont entrer en Eretz Israël, il y aura une période encore Mishkan, puis après on va passer à la construction par Shlomo HaMelech du Beth Amikdash. Dans ce passage de l'époque Mishkan à l'époque Betamigdash, que ce soit le Migdash de Shiloh ou bien le Betamigdash d'Yerushalayim, tous les principes fondamentaux qui étaient à l'œuvre, ben, qu'on avait dû respecter dans la construction du Mishkan, il va falloir les respecter aussi dans la construction du Beth Amikdash. Alors, bien entendu, il n'y aura pas des poutres et des tentures exactement comme il y avait dans le Mishkan, puisqu'on va construire en dur. Mais la maison en question, ce sera la même maison, en fait. Et de même que dans cette maison-là, on aura besoin d'ustensiles et de mobilier, en quelque sorte, et Hachem a ordonné, nous a ordonné, nous a ordonné quels ustensiles, quel mobilier il faut mettre dans cette résidence. Et donc il a ordonné que les kélim qui étaient les kélim dans le premier Beth Amikdash, c'est-à-dire dans le Mishkan, on veut qu'il soit là aussi dans ce qu'on appelle vraiment le premier Beth Amikdash en dur. Et c'est ça cet ordre. Vechentasu, comme on dit le Dorot, c'est-à-dire, vous ferez comme ça aussi quand, dans le futur, vous allez devoir passer du Mishkan, qui a été construit selon les règles qui sont données ici, à un Beth Amikdash. Et ce Beth Amikdash, il doit être construit sur les mêmes principes que ceux qui ont servi à la construction du Mishkan.
Et si quelque chose se casse, on doit le refaire à l'identique. Car
Oui.
je ne comprends pas ça. Pourquoi?
Pourquoi pas? Parce que ces kélim avaient des fonctions qui dépassaient l'utilité immédiate. C'est-à-dire, c'est dit par exemple sur les vêtements des Kohanim. On va dire que certains vêtements des Kohanim viennent pour compenser les fautes dans tel et tel domaine. Donc il y avait un autre sens que simplement le kli n'était pas simplement un kli pour verser de l'eau, etc. Il avait aussi une forme qui représentait quelque chose, qui symbolisait quelque chose. Indépendamment? Oui, ça s'était fait indépendamment. Ça veut dire, puisque Hachem sait tout, il va y avoir une lecture, disons, post-Vaudor de la signification de ces ustensiles et autres instruments. Si vous voulez, quand on dit que la Torah elle-même, si vous voulez, elle a des significations qui sont des significations qui dépendent aussi de l'époque dans laquelle les Chachamim qui interprètent par exemple les versets, ils y mettent du leur, c'est leur souffle. Mais leur souffle, et on n'a pas le même souffle quand on vit, je sais pas, sous la domination perse, ou sous la domination grecque, etc. Une autre ambiance, un autre type de problème à résoudre, etc. Et donc c'est très vraisemblable que les kélim aient plusieurs sens, et qu'Hachem, c'est comme ça la Torah, la richesse de la Torah, c'est qu'elle s'adapte, elle est comme l'eau. L'eau aussi, suivant dans quel kli tu vas le mettre, elle en prendra une autre forme. La Torah va prendre des formes qui vont être différentes, mais qui sont toutes des formes possibles de la Torah. Et c'est pour ça qu'on va dire, mais il y a aussi des formes interdites. Shivim Panim, la Torah, mais il existe des panim, des versions, des interprétations de la Torah qui ne sont pas conformes. D'accord? Et ça ne veut pas dire, quand on dit qu'elle peut prendre 70 visages, etc., ça ne veut pas dire n'importe quel visage. Il y a des visages qui ne sont pas accessibles, qui ne sont pas acceptables, pardon. Bon, ça veut dire que ce n'est pas possible. Certaines choses, la Torah ne peut pas venir dire, tu peux pas lui faire dire n'importe quoi. Tu peux pas interpréter, même si tu arrivais par une gymnastique interprétative à faire dire ceci à la Torah. Ça fait partie des panim de la Torah, chez l'Oka Halacha. Ils ne sont pas conformes à la Halacha, donc c'est des interprétations qui ne sont pas acceptables. Je pense que dans les Kélim, il y a aussi cette interprétation-là. Les Kélim avaient un sens avant le Vaudor, et maintenant ces mêmes Kélim ont un autre sens. Dans la mesure où ils vont servir à un processus de kapara, qui était un processus dont on n'avait pas besoin avant. OK, mais il aura toujours les mêmes spécificités, le même matériau, les mêmes dimensions. Alors après, le problème, disons, pas dire comme ça, mais de la même manière qu'on dit sur l'interprétation des versets, vous venez avec votre souffle, bah les souffleurs de verre ou les potiers, ils vont avoir un tour de main, ou je sais pas comment on dit, d'accord, qui va être quelque chose qui est peut-être un développement. On voit très bien qu'il y a des familles qui se sont spécialisées dans la fabrication de l'encens ou de certaines choses, avec des secrets de fabrication. Ces secrets de fabrication, c'est eux qui les ont développés, probablement. Inspirés, bien sûr, mais c'est leur développement personnel. Alors, il y avait déjà, dans le fameux verset où on dit que Hachem demande au Bnei Israël de lui faire un Mikdash et aussi un Mishkan, le Shachanti. Donc il y a à la fois Mishkan et Mikdash. Dans Mikdash, il y a la racine Kadosh qui parle de sainteté. Dans le Mishkan, il n'y a pas cette racine-là. Par contre, il y a une racine qui indique la résidence. Shochen, c'est résider. Donc, c'est le même objet qui a deux fonctions. Il est à la fois un sanctuaire et à la fois un Mishkan. Et la Gemara, elle traite ce problème. La Gemara, elle dit que Mishkan écrit Mikdash. Le Mishkan est aussi appelé Mikdash. Parce que c'est marqué, Vasuli Mikdash. Et on voit aussi que le Mikdash est aussi appelé Mishkan. C'est pour dire qu'il n'y a aucune différence entre les deux termes. De même que le Mishkan était, comme on dit, arai, c'est-à-dire c'était provisoire. De la même manière, le Mikdash était aussi provisoire. À quoi est-ce que ça ressemble? On a engagé un nouvel ouvrier pour un certain pour assurer une certaine fonction. Au départ, Il travaille beaucoup, travaille dur. Chaque jour, jour après jour, parce qu'il sait que son maître ou ses maîtres l'observent pour savoir si ils ont bien fait de l'engager. Et s'il ne travaille pas dur, alors ils vont le renvoyer. Mais au bout de quelques années, il pense que il est, bon, son poste est sûr. Ils vont pas me virer. J'ai suffisamment d'ancienneté. Et du coup, il peut être un peu plus, un peu moins bon dans son travail. Mais quand il, effectivement, il travaille moins bien, ils vont quand même le virer. Parce que eux, ils veulent un ouvrier, un employé fiable. Et eux, ils s'en fichent de savoir s'il était fidèle pendant 5 ans et que maintenant, à la 6e année, il l'est moins. Ils voient que cette année-là, maintenant, il n'est plus aussi fiable. Donc, écoutez, on a encore pas parlé d'Hachem. Mais on va peut-être terminer le machal, oui. L'homme, il est, en fait, il est de façon permanente, il est jugé. Il n'y a pas de situation, on va dire, voilà, je suis déjà arrivé, je suis arrivé au bout, ou arrivé au but. La avoda, le travail, c'est un travail permanent. Amikdash, le Mikdash est appelé Mishkan, parce que, effectivement, c'est quelque chose de provisoire. C'est-à-dire, peut-être que ça peut lui échapper, il peut se faire virer à tout moment. De la même manière, le Mishkan, il peut aussi rester pour très longtemps avec le clan Israël, si les Bnei Israël respectent les lois de la Torah. Le Mikdash, il n'a pas été donné, comme on dit, la achuzat le olam. C'est-à-dire, le Mikdash n'est pas quelque chose que nous avons reçu pour l'éternité. On a reçu ça pour provisoirement. C'est pas définitif du tout. L'évaluation, elle peut se faire la première année ou la deuxième ou bien plus tard. L'idée, c'est que le Mikdash ne nous a pas été donné définitivement. C'est comme si on avait, en fait, on l'avait loué. Et donc, à chaque moment, il faut renouveler le bail. En fait. Quand un employé a signé un bail, ce bail ne l'oblige que pour 1 an, si on l'a signé pour 1 an. Mais peut-être qu'effectivement, cette année-là, il va veiller à bien travailler pour avoir une prolongation, pour que il aura une nouvelle année. Mais si on avait un bail, si vous voulez, pour plusieurs années, alors on pourrait avoir tendance à se laisser aller au bout d'un certain temps. Et c'est ça le inyan de Vasuli Migdash. C'est-à-dire que tout ce qui fonctionne pour le Mishkan fonctionne aussi pour le Migdash. Résider, habiter, c'est connu que on réside, on habite éventuellement pour un temps limité. Dans le Migdash, on pourrait penser que c'est pas lié au temps. Ça pourrait être valable tout le temps. Et c'est ça quand on nous vient nous dire que le Migdash est aussi un Mishkan. Il a les mêmes conditions que le Mishkan. Vechen ta'asu, vous ferez ainsi, c'est-à-dire que chaque jour où le Migdash n'est pas détruit, c'est considéré comme si ce jour-là il avait été construit. Comme on dit tous les matins, Modéani lefanecha, Melech chay vekayam, shehzarta bi nishmati. Achérim ayou matmiyim. Il y a d'autres gens qui s'étonnaient et qui disaient, mais elle nous a jamais, la neshama ne nous a jamais été prise pour qu'on puisse parler de nous l'avoir rendue. En vérité, quand on se lève le matin, c'est un nouveau monde. Le monde d'hier, il a déjà passé. Chaque matin, c'est un deuxième chapitre. Le premier chapitre a été terminé hier. Alors, bien entendu, il y a une continuité entre les deux. Sinon, si vous voulez, on ne serait pas responsable, on ne pourrait pas nous juger aujourd'hui sur ce qu'on a fait hier. C'est-à-dire, en fait, c'est pour ça qu'on a pris cette idée du chapitre, ce sont les chapitres du même livre. Et malgré tout, peut-être le livre n'avait qu'un seul chapitre. Vous savez, le livre du Navi Ovadia, il n'a qu'un seul chapitre. C'est pas que Ovadia a mal fait, c'est que le rôle d'Ovadia était un rôle où il était beaucoup sur le terrain. Et donc il y a peu de choses dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il a prophétisé, qui nous concernent. Donc ça n'a pas été retranscrit pour les générations. Mais il était un prophète aussi grand que les autres. C'est pour ça que nous disons le matin, cher Zartebinishmati, c'est marqué, Hadashim Labkarim, Rabba Emunatecha. Kol Boker, chaque matin, c'est une nouvelle création. Et nous sommes une nouvelle création chaque matin. Bien que on ait déjà mûri hier. Et on se lève, mais on est déjà au chapitre 2. C'est nouveau, mais on ne revient pas à zéro tous les matins. C'est ça, Vasuli Migdash, quelque chose qui a la dimension de l'éternité. Mais Akadosh Baruch Hu nous a mis en garde. Ne considérez pas que les choses sont acquises. Si nous ne continuons pas de travailler en permanence, alors le Mikdash nous sera pris. Et effectivement, on a perdu le Mikdash. La première chose qu'on va construire dans ce Mikdash, Mishkan, ça va être ce qu'on appelle le Aaron HaKodesh. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça l'arche de l'Alliance, je ne sais pas. Parce que bon, si on traduisait Aaron, c'est une armoire. En fait, c'est une boîte. C'est une boîte qui est composée en vérité de trois boîtes, l'une à l'intérieur de l'autre. Une petite boîte en or. Une moyenne boîte en bois, c'est assez chitim, on traduit généralement, pour des raisons que je ne connais pas, que c'est du bois d'acacia. Je ne sais pas pourquoi l'acacia est ézoré, peut-être c'est comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y avait vraiment des acacias en terre d'Israël à ce moment-là, ou en Mésopotamie, ou je ne sais pas quoi. Bon, je ne sais pas ce qu'il a de particulier. En tout cas, la boîte du milieu, dans laquelle la petite boîte en or va se mettre, elle est en bois. Et cette boîte en bois, elle entre dans une boîte en or qui la contient. Donc si on vient de l'extérieur, on a d'abord une grande boîte. C'est comme les poupées russes, quoi. Une grande boîte dans laquelle il y a une moyenne boîte, dans laquelle il y a une petite boîte. Or, bois, or. C'est-à-dire que on a l'impression d'avoir une boîte en or. Pardon? Oui. Mais j'ai pris, comme tout le monde a dit, que c'était l'acacia. Mais je sais pas pourquoi c'est de l'acacia. Moi, j'ai rien contre, hein, j'ai rien contre l'acacia. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'il a comme particularité pour que ce soit ça le bois que Yaakov Avinu a transporté dans toutes les tribulations jusqu'à ce que on l'utilise. Alors on a fait ce Aaron. Vasu Aaron, Atzeshitim, Amataim Vachetzi Orko, Ama Vachetzi Orbo et Ama Vachetzi Komato. Vous remarquez que toutes les mesures sont 2,5, 1,5, 1,5. Après que le verset nous ait dit que le but du prélèvement de la Trouma, c'est de construire le Mishkan, alors les psukim continuent et nous disent qu'est-ce qu'il y avait dans ce Mishkan? Quels étaient les ustensiles et le mobilier de ce Mishkan? Première chose, écrite ici, c'est le Aaron. Le Aaron, il a une seule fonction. C'est qu'on y mette la Torah. On va y mettre les louchot, donc les tables de la loi, la Torah que Moshe Rabbeinu aura écrit. Ça va se trouver dans le Aaron. Ou alors au-dessus du Haron, dans la Gemara, il y a une discussion. Et on ne sait pas vraiment comment c'était, mais au moins ce qu'on sait, c'est le lieu de la Torah et des Louchot, c'était dans le Haron. Les louchot, c'était comme un exemple de la Torah qu'on peut trouver dans cette Torah, les 613 mitzvot, qui sont inclus dans les Aseret HaDibrot, comme l'a montré Rav Sadia Gaon Et comme on le dit dans les Piyutim, il y a un piyut aussi du Rav, du Evin Gvirol, et le Ravan aussi. Donc il y a plusieurs textes qui attestent de cela. Il faut dire, par exemple, qu'on prend quelles sont les mitzvot qui sont incluses dans la première des 10 paroles, dans le Anochi. Quelles mitzvot sont dans le Anochi? Quelles mitzvot sont dans Lo Yehi? Ça veut dire qu'il y a 10 mitzvot, qui sont les 10 paroles en question, qui sont suffisamment générales pour englober à elles 10 les 613 mitzvot. C'est-à-dire les 603 autres mitzvot. Donc ça veut dire que par rapport à ça, les autres mitzvot ne sont comme des pratim par rapport à un klal, c'est-à-dire des détails par rapport à un principe général. Pardon? Les 10 principes, c'est les un principe général, oui, un principe général.
Mais il y aurait 10 qui s'est
Il y en a 10, oui. C'est les 10 Aseret HaDibrot.
c'est ça. C'est la gérée d'un bloc ou des autres.
Voilà. Alors, en tout cas, le Aaron, il est le représentant de la Torah. Et la Torah, c'est d'une certaine manière pour nous le représentant d'Hachem. C'est un des moyens par lesquels la Kadosh Baruch Hu se fait connaître, c'est-à-dire se fait représenter pour nous. C'est là que se trouvait la Shrina. Chazal disent, sur la fameuse question, sur le passouk qui dit Allah Osvam et Torati, Alvay oti azvu vet Torotai. Shamaru, si au moins s'ils m'avaient abandonné moi, mais qu'au moins ils aient gardé ma Torah, alvay sheyu ovdim avodah zara kemo achav ve ta Torah lo azvu. Même s'ils étaient idolâtres comme le roi Achav, mais au moins, s'ils avaient gardé la Torah, Achav, dit la Gemara, Achav gamar et kol hashas esrim ushtaim permis. Achav, il a étudié ce qui représente, il n'y avait pas de chasse à ce moment-là, mais bon, il a étudié le chasse 22 fois. 22, c'est le nombre de lettres dans l'alphabet. Toutes les années où il a régné sur Israël, chaque année, il faisait un sioum. On lo azav et ta Torah. Il n'a pas abandonné la Torah. Kol zman she en ozvim et ha Torah, il y a encore de l'espoir. Tant qu'on n'abandonne pas la Torah, il y a encore de l'espoir. Même pour Achav, il y a de l'espoir. Parce que à partir de la Torah, on peut retrouver de la Yirat Shamayim. On peut retrouver de la crainte du ciel. Quand on étudie la Torah, immédiatement, on change. On change et on fait confiance au Ribbono shel Olam. Alken, on verra. Alken, pour cette raison, on peut dire qu'Akadosh Baruch Hu est représenté par la Torah et que sans Torah, sans mitzvot, on n'aurait rien, on serait rien du tout. Les mitzvot, c'est pour nous rappeler en permanence qu'on doit être à un haut niveau, plus haut. Et si on n'accomplit pas les mitzvot, ça amène à l'oubli de la Torah. Et par conséquent, on tombe au plus bas. On oublie tout. Et c'est pour ça que, à partir du Haron, on apprend quelque chose sur la Shrina. Et à partir de là, on peut accéder à la Shrina. Parce que la Emouna, on l'acquiert Minatora. Et donc, ça fait en sorte que Hachem se rapproche de nous au point que on va ressentir qu'Hachem s'occupe de nous. Ça, c'était la caractéristique du Aaron. C'est pour ça que c'est la première chose qui est mentionnée ici dans la construction du Mishkan. Parce que la première chose qu'on doit savoir, c'est que HaKadosh Baruch Hu réside en bas, il réside ici. Qu'est-ce qu'il représente? Le Haron. Tous les kélim sont comme du mobilier, simplement. Et de la même manière que quand on déménage, on doit souvent acheter une table et une menorah pour meubler la maison, pour la préparer à être un appartement, un endroit où on va pouvoir vivre. Mais tant qu'on n'est pas entré soi-même dans la maison, alors ça ne s'appelle pas encore un appartement, un lieu d'habitation. Comment est-ce qu'on entre, ou comment est-ce que Hachem entre pour habiter dans le monde d'en bas? C'est par le Haron, par l'arche de l'Alliance. C'est pourquoi le Haron est ici inscrit en premier. Parce que c'est le but. C'est le but que HaKadosh Baruch Hu dévoile le fait qu'il réside dans le Beth Amikdash. C'est marqué, Venoadeti lecha sham, ve dibarti itra me'al ha-kaporet. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, je te rencontrerai là-bas. C'est-à-dire dans le Mishkan, et je te parlerai d'au-dessus du couvercle du Haron. On dit que Moshe Rabbeinu, la voix qu'il entendait d'Hachem quand Hachem lui parlait, elle semblait venir d'entre les deux chérubins qui étaient sur le couvercle du Haron. Misham nitmaleh kvod Hashem et Mishkan. Et c'est de là que la gloire divine investissait, remplissait le Mishkan, au point que personne, quand Moshe était dedans, personne ne pouvait entrer. Quand est-ce que les Bnei Israël ont reconnu cela? Durant les 40 ans où ils étaient dans le désert, Hachem parlait avec Moshe, comme on l'a dit, mais à la caporet, mi ben shna krouvim, d'au-dessus du couvercle du Aaron, entre les deux, les deux chérubins. Shamanu kol yotse misham, she'amar Moshe. On entendait une voix qui sortait de là-bas et qui disait Moshe. Et les bnei Israël savaient que le Ribbon Shel Olam parlait avec Moshe de là-bas, de cet endroit-là. Tout ce que Hachem lui disait, et ce que Moshe répondait, personne n'entendait rien. Mais l'appel à Moshe, ça, tout le monde l'entendait. Donc tout le monde savait qu'Hachem avait convoqué en quelque sorte Moshe Rabbeinu, il lui parlait, personne n'entendait rien, n'entendait ni ce qu'Hachem lui disait, ni ce que lui disait Hachem, mais on savait qu'Hachem lui parlait. Ça, c'est le Aaron. Alors, je vois bien que, effectivement, ça vous paraît étrange, cette idée que un roi idolâtre comme Achav était considéré comme quelqu'un qui n'avait pas abandonné la Torah. Nous, on aurait dit aujourd'hui que quelqu'un qui étudie la Torah comme Achav, c'est-à-dire en étant en même temps un pratiquant assidu de l'idolâtrie, ça vaut rien, quoi. Visiblement, c'est pas comme ça. Visiblement, il y a une valeur à l'étude de la Torah. Est-ce que disait ici David, en fait, c'est que Achav devait avoir de la Yirat Shamayim malgré tout. Parce que quand on étudie la Torah, on acquiert de la Yirat Shamayim. Et donc, c'est difficile de se représenter ce qu'était Achav. Mais je vous rappelle qu'on avait aussi les mêmes difficultés. C'est pas quand, et même pas seulement nous, mais en fait, même les Amoraïm, quand il y avait les problèmes avec le roi Menaché, et que quand ils ont voulu dire que Menaché n'avait pas avec Léolam Abba et que Ravachi avait parlé de façon un peu légère de il s'en est pris plein la figure. Et il a dit, mais comment est-ce que vous pouviez? Naché lui a dit, si toi tu étais là, le Yetzer hara d'Avodah Zara était tellement fort que tu aurais relevé les pans de ton manteau pour ir plus vite au temple de l'idolâtrie, de l'idole. Donc on n'a aucune idée de ce que c'était parce que les Chachamim ont prié pour que cette virulence de la Avodah Zara disparaisse. Et du coup, on n'a aucune idée de cette virulence. Bon, là, il reste de l'idolâtrie, il reste des formes idolâtres qui sont plus ou moins attrayantes. Or, pourquoi est-ce que il y a des juifs qui se convertissent sans contrainte au christianisme ou à l'islam, ou au bouddhisme, etc. Il y a un Yetzer Hara, visiblement, mais ce Yetzer Hara, il est en rien comparable au Yetzer Hara d'Avodah Zara de l'époque, avant que les Chachamim prient pour supprimer la virulence en question. Voilà, on s'arrête là. À vous de jouer.